Chapitre 16. Pesanteur terrienne, question. Demande Rocky dans sa sphère posée sur le sol de la salle de contrôle, à côté de mon fauteuil. Je regarde l'écran de la centrifugeuse. La vitesse de rotation et le débobinage des câbles sont optimaux. Le compartiment habitable vient de terminer son demi-tour. Le diagramme montre que les deux moitiés du vaisseau se sont séparées. Nous tournons avec fluidité dans le vide. La pesanteur dans le laboratoire est de 1 gramme. Oui, c'est bien la pesanteur de la Terre. Rocky fait quelques pas de côté, dans un sens puis dans l'autre, faisant rouler sa boule géodésique d'avant en arrière. Faible pesanteur. Quelle valeur? Question. 9,8 mètres par seconde carré. Faible pesanteur, répète-t-il. Pesanteur sur Éride, 20,48.
Très forte pesanteur, remarquai-je.
Cela n'a rien d'étonnant. Il m'a déjà parlé d'Éride, m'a donné sa masse et son diamètre. Je sais que la pesanteur à la surface de la planète est environ 2 fois celle de la Terre. Mes calculs se vérifient donc, ce qui fait toujours plaisir. Une note à moi-même. Waouh ! La masse de Rocky est de 168 kg. Cela signifie que sur son monde natal, Rocky pèse dans les 350 kg terrestres. Comme c'est son environnement, je suppose qu'il s'y meut sans difficulté. 350 kg et il se balade comme si de rien n'était. Note à moi-même, ne jamais faire un bras de fer contre un Éridien. Alors, que faut-il faire ? L'interrogeai-je en m'adossant à mon fauteuil. Voler dans la ligne de Petrova pour récupérer des astrophages? Oui. D'abord faire environnement en xénonite pour moi. Il montre le passage vers le reste de l'habitacle du vaisseau. Surtout dans dortoir, mais aussi tunnel dans laboratoire et petite zone dans salle de contrôle. Vous d'accord? Question. C'est vrai qu'il ne peut pas passer le restant de sa vie dans cette balle.
Oui, bien sûr. Où est la xénonite?
Morceau xénonite dans sac, dans dortoir. Liquide. Mélangé, devient xénonite.
Comme de l'époxy. Mais en beaucoup, beaucoup plus résistant.
Intéressant. Je veux tout savoir sur la xénonite. Moi, pas comprendre science. Seulement utiliser. Désolé.
Pas de problème. Je ne sais pas comment marche la machine qui pense. Je l'utilise, c'est tout.
Bien. Vous comprendre.
Combien de temps durera la construction?
4 jours, possible 5. Pourquoi vous demander? Question.
Je veux travailler vite.
Pourquoi si vite? Question. Lentement, sûrement. Moins d'erreurs.
La Terre est en mauvais état, expliquai-je en m'agitant nerveusement dans mon fauteuil. La situation s'aggrave de jour en jour. Je dois me presser.
Pas comprendre. Pourquoi Terre mal si vite? Question. Situation aride se dégrader lentement. Au moins 72 années avant situation grave.
72 ans?
Je regrette que la Terre n'ait pas autant de temps devant elle. Dans 72 ans, la Terre sera un désert de glace et 99% de la population sera morte.
Pourquoi aride est-elle moins affectée?
Je fronce les sourcils. Il me suffit de quelques secondes pour comprendre. Tout est une question de stockage d'énergie thermique.
Éride est beaucoup plus chaude que la Terre, beaucoup plus grosse aussi, avec une atmosphère plus épaisse. La quantité de chaleur qu'elle stocke est donc plus grande. La Terre se refroidit vite, très vite. Dans 14 ans, la plupart des habitants de la Terre seront morts.
Sa voix se fait monotone, extrêmement sérieuse. Compris, inquiétude, stress.
Oui.
« Nous travailler », lance-t-il en entrechoquant 2 de ses pinces. « Tout de suite, découvrir comment tuer astrophage, vous retourner sur Terre, vous expliquer, sauver Terre. »
Je soupire. Le moment est sans doute venu de lui dire. « Je ne rentrerai pas chez moi. Je vais mourir ici.
Pourquoi ?» Question. Demande-t-il comme sa carapace frémit.
Mon vaisseau n'avait assez de carburant que pour venir jusqu'ici. Je ne pourrais pas rentrer sur Terre.
Je dispose de minuscules sondes qui retrouveront la Terre avec les données que j'y aurais chargées.
Je vais rester ici.
Pourquoi mission pareille? Question.
nous n'avons pas réussi à produire plus de carburant dans le temps qu'il nous restait. Vous savoir avant de partir ? Question.
Oui.
Vous, bon humain ?
Merci.
J'essaye de ne pas penser à ma mort prochaine. Allons récupérer des astrophages. J'ai des idées sur la façon dont il faut s'y prendre. Mon équipement est très bon pour détecter des traces infimes.
Attendre.
Il lève une pince. Combien astrophages votre vaisseau besoin pour retour sur Terre ? Question.
Un peu plus de 2 millions de kilogrammes.
Pouvoir donner...
Quoi ?
M'étonnais-je en me redressant dans mon fauteuil.
Pouvoir donner...
Avoir beaucoup.
Pouvoir donner 2 millions de kilogrammes et rentrer sur Eride, sans problème.
Vous prendre autant que nécessaire.
Mon cœur saute un battement.
Vous êtes sérieux ? Cela fait beaucoup de carburant. J'ai bien dit 2 millions de kilogrammes. 2 × 10 à la puissance 6.
Oui, avoir beaucoup astrophage. Vaisseau plus efficace que prévu durant trajet aller. 2 millions kilogrammes pour vous.
Je m'affaisse dans mon fauteuil. Le souffle court. J'hyperventile presque. Mon regard s'embrume.
Mon Dieu.
Pas comprendre.
J'essuie mes larmes.
Vous allez bien ? Question.
Oui.
Sanglotai-je.
Oui, je vais bien. Merci. Merci, merci.
Moi heureux. Vous vivre. Allons sauver planète.
Je craque et je pleure des larmes de joie. Je ne vais pas mourir.
La moitié de l'équipage chinois était réunie sur le pont. Certains faisaient leur travail, mais la plupart étaient là pour jeter un coup d'œil au sauveur de l'humanité. L'équipe scientifique tout entière était là aussi. La bande présente à nos réunions hebdomadaires. Strat, moi, Dimitri, Loken et Lamaï, la nouvelle. Ah, et aucune équipe scientifique ne serait complète sans son escroc accro au jeu, Bob Reddle. Pour être honnête, Bob avait fait du bon boulot. Il s'était occupé magnifiquement de nos installations dans le Sahara. Il est rare de trouver un bon scientifique qui soit également un administrateur compétent. Ce n'était pas une mince affaire, mais la ferme générait autant d'astrophages que nous l'avions prévu. L'hélicoptère descendit et se posa en douceur sur la plateforme. L'équipe au sol accourut pour le prendre en charge. Les rotors ne s'arrêtèrent pas de tourner et la porte de la soute s'ouvrit. 3 personnes en combinaison bleue en sortirent, chacune arborant le drapeau de son pays d'origine sur l'épaule. Un Chinois, une Russe et un Américain. On les éloigna à la hâte de l'appareil qui reprit aussitôt les airs. Quelques secondes plus tard, un second hélicoptère arriva. Comme le premier, il transportait 3 astronautes, 2 Russes, une femme et un homme, et une Américaine. Ces 6 personnes constitueraient l'équipage principal et l'équipage suppléant du Dernière Chance. Tous les 6 auraient très bien pu tenir dans un seul appareil, mais Strat avait imposé des règles strictes. Jamais, au grand jamais, les 2 équipages ne devraient partager un même véhicule aérien ou terrestre. Chaque poste dans cette mission était très spécifique et nécessiterait des années de formation. Pas question qu'un accident de voiture ruine les chances de survie de l'humanité. Le pool de candidats était limité. Très peu de gens avaient le bon profil, étaient résistants au coma et disposés à partir pour une mission suicide. En dépit de cela, cependant, le processus d'élimination et de sélection avait été long, brutal. D'autant plus que tous les gouvernements impliqués insistaient pour faire entendre leur voix. Strat avait tenu bon, gardant uniquement les meilleurs candidats, même si quelques concessions avaient dû être faites.
« Des femmes ? » dis-je.
« Oui, » marmonna Strat.
« En dépit de vos directives ? » ?»«
Oui. »
« Bien. » »«
Non, pas bien, » protesta-t-elle en fronçant les sourcils. « Les Américains et les Russes m'ont imposé leur volonté. »
« Je n'aurais jamais cru qu'une femme pouvait être sexiste à ce point, » me moquai-je en croisant les bras.
« Je ne suis pas sexiste, simplement réaliste. » Elle coinça derrière son oreille une mèche de cheveux rebelles. « Si ça n'avait tenu qu'à moi, nous n'aurions pris que des hommes hétérosexuels. »«
Et pourquoi pas des femmes hétérosexuelles ?»«
Une grande majorité des scientifiques et astronautes entraînés et volontaires sont des hommes hétérosexuels. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ça ne vous plaît pas? Encouragez vos élèves filles à choisir des filières scientifiques et technologiques. Mon boulot n'est pas de garantir l'égalité des sexes, mais consiste à sauver l'humanité, voyez-vous.
Ouais, enfin c'est sexiste quand même.
Appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas de place dans cette mission pour une quelconque tension sexuelle. Qu'arrivera-t-il en cas de relation amoureuse? Ou de dispute? Des gens tuent pour moins que ça.
Je me tournai vers les candidats de l'autre côté du pont. Le capitaine Yang leur souhaitait la bienvenue à bord. Il s'intéressait en particulier à son compatriote. Les deux hommes se serraient chaleureusement la main en souriant. « Vous ne vouliez pas de Chinois non plus? Vous pensiez que leur programme spatial était trop jeune? Et pourtant j'ai cru comprendre que vous en aviez fait le commandant de l'équipe principale. »
« Oui, parce qu'il est le plus qualifié. »
« J'imagine que les Russes et les Américains ici présents sont qualifiés aussi. Peut-être ces gens qui vont sauver le monde resteront-ils professionnels? Peut-être que se priver de la moitié de votre vivier de talent parce que vous craignez que les astronautes ne soient pas capables de la garder dans leurs pantalons n'est pas une si bonne idée. »
« J'espère que vous avez raison. La Russe, Ilyukina, fait aussi partie de l'équipe principale. » Elle est spécialiste en matériaux et de loin la meilleure candidate pour le poste. L'expert scientifique est un Américain, Martine Dubois. Deux hommes et une femme. Un désastre annoncé.
Mon Dieu ! Lâchai-je en portant la main à mon cœur de façon théâtrale. Et en plus, il est noir. Je m'étonne que vous l'ayez permis.
Ne craignez-vous pas que la mission soit compromise par des discussions sur le rap et le basket ?
Oh, fermez-la. Les marins chinois se massaient autour des astronautes. Ils étaient tous très impressionnés, surtout par Yao.
Dubois a 3 doctorats, en physique, chimie et biologie. Elle, c'est Annie Shapiro, poursuivit Strat en montrant l'américaine. Elle a inventé une nouvelle méthode d'épissage de l'ADN. Ça s'appelle la méthode Shapiro, d'ailleurs.
Sérieux? Vous parlez de la Annie Shapiro? Elle a créé 3 enzymes pour...
Oui, oui, je sais. Elle est très intelligente.
Et elle l'a fait pour sa thèse de doctorat. Pour sa thèse.
Vous savez combien de gens sont en piste pour le prix Nobel grâce à des recherches faites durant leurs études doctorales?
Pas beaucoup, c'est certain.
Et elle est seulement votre 2e choix comme expert scientifique. Elle est la plus grande spécialiste vivante de l'épissage de l'ADN. Mais Dubois est balèze dans un tas de domaines intéressants et importants pour nous. Nous ignorons ce qu'ils vont trouver là-bas. On a besoin de quelqu'un avec une base de connaissances très large.
« Des gens incroyables, » dis-je. « Les meilleurs des meilleurs. »
« Heureuse que vous soyez impressionné, parce que c'est vous qui allez former Dubois et Shapiro. »«
Moi ? Mais je ne sais pas comment on forme des astronautes. »
« La NASA et Roscosmos leur enseigneront les trucs d'astronautes. Vous vous concentrerez sur les sciences. »
« Vous plaisantez. » Ils sont bien plus malins que moi. Que pourrais-je bien leur enseigner?
Ne faites pas le modeste. Vous êtes le meilleur expert mondial en biologie des astrophages. Vous leur apprendrez tout ce que vous savez.
Ah, voici l'équipe principale.
Yao, Ilyukina et Dubois convergèrent vers Strat. Yao s'inclina légèrement, puis s'adressa à elle dans un anglais parfait, avec très peu d'accent.
Madame Strat, « je suis honoré de faire enfin votre connaissance et extrêmement reconnaissant d'avoir été choisi pour commander cette mission. »«
Le plaisir est partagé. Vous étiez le plus qualifié. Le choix était évident. »«
Salut !»
s'exclama Ilyukina en donnant l'accolade à Strat.
« Je viens mourir pour la Terre. Super, hein ?»«
Les Russes sont tous cinglés comme elle ?» demandai-je en me penchant vers Dimitri.
« Oui, » confirma-t-il en souriant. « C'est la seule façon d'être russe et heureux à la fois. »«
Ce que vous me dites là est très sinistre. »«
Non, c'est russe. »
Dubois parla si bas que je l'entendis à peine. « Madame Strat, merci de cette opportunité. Je ne vous laisserai pas tomber. » Les autres membres de l'équipe scientifique et moi serrâmes la main des astronautes d'une manière totalement désorganisée et non formelle. Un peu comme un cocktail. Au milieu de tout cela, Dubois revint vers moi. Vous êtes Ryland Grace, n'est-ce pas?
En effet, honoré de vous rencontrer.
Ce que vous faites est simplement... Je n'arrive même pas à appréhender le sacrifice que vous avez consenti. Mais vous préférez peut-être ne pas en parler, je ne sais pas. Peut-être ne devrions-nous pas l'évoquer.
J'y pense assez souvent, avoua-t-il en souriant. Inutile d'éviter le sujet. En plus, vous et moi nous ressemblons beaucoup.
Oui, acquiesçai-je dans un haussement d'épaule. Enfin, vous êtes bien plus calé que moi, mais j'aime beaucoup la biologie cellulaire.
Oui, moi aussi. Mais je parlais de la résistance au coma. J'ai entendu dire que vous aviez les mêmes marqueurs génétiques que moi et les autres membres des deux équipages.
Ah bon ?
Ils ne vous l'ont pas dit, s'étonna-t-il en haussant le sourcil.
Non ? Je me tournai vers Strad qui était occupé à discuter avec Bob l'escroc et le commandant Yao. Première nouvelle ?
Bizarre.
Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?
Vous posez la question à la mauvaise personne, Dr. Grace. À mon avis, ils ne l'ont dit qu'à Strat, qui ne l'a répété qu'aux personnes qui avaient besoin de le savoir.
C'est mon ADN, quand même. Ils auraient pu me le dire.
Dubois s'empressa de changer de sujet. En tout cas, j'ai hâte que vous me parliez du cycle de vie des astrophages. La docteur Shapiro, ma collègue dans le second équipage, est également pressée de commencer. Vous aurez une classe de 2 élèves, je suppose. Avez-vous de l'expérience en matière d'enseignement ?
Oui, beaucoup.
Excellent.
Je suis tout sourire. Cela fait 3 jours que j'ai découvert que je ne vais pas mourir et je n'ai pas cessé de sourire. Enfin, je risque toujours de mourir, à vrai dire. Le retour sera un voyage long et dangereux. Le fait que j'ai survécu à un premier coma ne signifie pas que je survivrai au second. Peut-être pourrais-je rester éveillé et me nourrir de la bouillie prodiguée par les bras robotiques lorsque je n'aurai plus de réserve. Je suis tout à fait capable de résister à 4 ans de solitude, non ? On nous a mis dans le coma pour que nous ne nous entretuions pas, mais le confinement solitaire crée d'autres genres de troubles psychologiques. Je devrais m'informer sur le sujet. Plus tard. Pour le moment, j'ai la Terre à sauver. Je m'occuperai de ma propre survie lorsque j'en aurai le temps. Mais il s'agit désormais d'un problème à résoudre, au lieu d'une mort assurée. Les voyants du moniteur de la centrifugeuse passent au vert clignotant. « Pesanteur maximale, » dis-je dans un sourire. Après une brève période d'apesanteur, ma centrifugeuse fonctionne de nouveau. J'ai dû interrompre la rotation parce que j'avais besoin de démarrer les moteurs. Impossible d'avoir simultanément pesanteur centrifuge et propulsion. Imaginez, le vaisseau séparé en 2 parties, accroché par des câbles d'une 100 mètres, les moteurs qui démarrent... Non, n'imaginez pas. Pendant les décennies, sic, de sa présence ici, Rocky a bien répertorié le système. Il m'a fourni toutes les données qu'il a recueillies. Il a étudié 6 planètes, notant leur taille, masse, position, caractéristiques orbitales et composition atmosphérique. Il n'a pas eu besoin de se déplacer pour mener ses observations. Tout était faisable depuis le spot A. Il semblerait que les Iridiens soient aussi curieux de tout que les humains. C'est une bonne chose. Nous ne sommes pas dans Star Trek. Je ne peux pas simplement activer un scanner pour obtenir toutes les informations sur un système. Il a fallu des mois d'observation à Rocky pour parvenir à ce niveau de détail. Plus important encore, Rocky sait tout ce qu'il y a à savoir sur la ligne de Petrova locale. Comme on pouvait s'y attendre, elle mène à une planète spécifique du système, sans doute celle contenant le plus de dioxyde de carbone. Il s'agit de la 3e planète du système, Tau Ceti E, comme on l'appelle sur Terre. Ce sera notre prochaine destination. Bien sûr, nous pourrions traverser n'importe quelle partie de la ligne de Petrova pour récupérer des astrophages. Ce contact, cependant, ne durerait que quelques secondes. Un système solaire n'est pas un objet statique. Aussi devons-nous voler à une certaine vitesse pour rester en orbite autour de l'étoile. Tau Ceti E est une bonne grosse planète située dans la partie la plus large de la ligne de Petrova. Nous pourrons stationner le vaisseau en orbite et nous immerger dans les astrophages pendant au moins la moitié de chaque orbite. Et nous pourrons rester là-bas aussi longtemps que nécessaire afin de réunir toutes les données dont nous avons besoin sur les astrophages et la dynamique de la ligne de Petrova elle-même. Nous sommes donc en route pour la mystérieuse planète. Et je ne peux pas simplement demander à Monsieur Sulu de se diriger par là-bas. Je passe 2 jours à faire des calculs, à les vérifier et à les vérifier encore, planifiant trajectoire et intensité de la poussée. Il me reste 20 000 kilos d'astrophage. C'est effectivement beaucoup, compte tenu du fait qu'on peut obtenir 1,5G avec seulement 6 grammes par seconde. Comme promis, le vaisseau de Rocky regorge de carburant. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment c'est possible. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune intention de le gaspiller. Je nous mets sur la bonne voie et je fais tourner un peu les moteurs. Dans 11 jours environ, je me chargerai de notre insertion orbitale. Pendant ce temps, je décide de faire tourner la centrifugeuse pour générer une pesanteur artificielle. 11 jours. C'est vraiment incroyable. Nous avons un peu plus de 150 millions de kilomètres à parcourir. C'est à peu près la distance qui sépare la Terre du Soleil. Et nous y parviendrons en 11 jours seulement. Comment ? En ayant une vélocité démesurée. 3 heures de poussée pour imprimer un mouvement, puis 3 autres lorsque nous arriverons à Tau Ceti E. En ce moment, nous volons à 162 km par seconde. C'est colossal. Si on quittait la Terre à cette vitesse, on atteindrait la Lune en 40 minutes. La manœuvre tout entière, en comptant la poussée finale pour ralentir, ne nécessitera que 130 kg de carburant. L'astrophage est véritablement miraculeux. Rocky se tient dans un bulbe de xénonite transparente sur le sol de la salle de contrôle. Nom ennuyeux. Hein ? Quel nom ? Il a passé des jours à construire sa zone iridienne dans tout le vaisseau, avec ses tunnels reliant les différents niveaux. La structure ressemble beaucoup à une cage de hamster géante. Il bascule son poids sur d'autres membres. Tau Ceti E, nom ennuyeux. Donnez-lui en un autre alors. Moi nommé ? Question. Vous nommé ? Vous étiez le premier ? Rétorquai-je, en détachant ma ceinture pour m'étirer. Vous l'avez identifié. Vous avez découvert son orbite et sa position. Il vous revient de lui donner un nom. Votre vaisseau, vous nommé. Ça ne se passe pas comme ça sur Terre, expliquai-je en secouant la tête. Si vous êtes le premier à arriver quelque part, il vous revient de donner un nom à tout ce que vous découvrez. Il prend le temps de réfléchir. La xénonite est un matériau incroyable. Un tout petit centimètre de xénonite transparente sépare mon 1/5 d'atmosphère d'oxygène des 29 atmosphères d'ammoniac de Rocky. Sans parler de mes 20 degrés à côté des 210 degrés de Rocky. Rocky n'a pas investi tout l'habitacle de façon égale. Le dortoir est presque entièrement son domaine désormais. J'ai insisté pour qu'il récupère toutes ses affaires, aussi nous sommes-nous mis d'accord pour qu'il occupe la majeure partie de cette partie du vaisseau. Il y a également installé un grand sas. Il s'est inspiré du sas du Dernière Chance pour le fabriquer, partant du principe que tout ce qui était important dans mon vaisseau devait pouvoir y entrer. Je ne pourrais jamais me rendre dans sa zone. Ma combinaison d'AEV ne résisterait pas à son environnement. J'y serais écrabouillé comme un grain de raisin. Le sas ne servira donc qu'au passage d'objets. Le laboratoire est principalement à moi. Un tunnel y longe la paroi, avant de s'engouffrer par l'écoutille, permettant à Rocky de passer directement dans la salle de contrôle, mais également d'observer les expériences que je pratique. De toute façon, l'équipement produit sur Terre ne fonctionnerait pas dans son environnement. Quant à la salle de contrôle, disons que c'est serré. Rocky a positionné son bulbe de xénonite sur le sol à côté de l'écoutille. Il s'est réellement efforcé d'être le moins intrusif possible. Il m'a assuré que les trous qu'il avait pratiqués dans ma coque ne menaçait pas l'intégrité de mon vaisseau.
D'accord, dit-il enfin. Non.
Je n'ai plus besoin de l'analyseur de fréquence. J'ai reconnu un La grave sous un accord de Do majeur, suivi par un Mi bémol à l'octave et un Sol mineur septième. J'entre le tout dans mon tableur. Je ne sais pas pourquoi, cela fait des jours que je n'en ai pas eu besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, mon compagnon.
J'écarquille les yeux. Le cachotier. Il m'avait dissimulé cela. Je suppose que les Éridiens ne se vantent pas de ce genre de choses. Nous avons profité de notre voyage pour discuter en détail de nos biologies respectives. Je lui expliquais comment les humains font d'autres humains, et il m'a dit d'où viennent les bébés éridiens. Les éridiens sont hermaphrodites et se reproduisent en pondant un œuf à côté de celui de leur compagnon. Après un processus mystérieux, un des œufs absorbe l'autre, laissant un seul œuf viable qui se développera pendant une année éridienne, soit 42 jours terriens. Cette ponte conjointe est l'équivalent éridien d'une relation sexuelle qui ne se produit que pour donner la vie. En tout cas, c'est la première fois que j'entends Rocky évoquer la question. Vous avez un compagnon ?
Aucune certitude. Compagnon peut-être trouvé autre compagnon. Moi parti très longtemps.
C'est triste.
Oui, triste. Mais nécessaire sauver Éride. Vous choisir mot humain pour...
Les noms propres sont un casse-tête. Si vous apprenez l'allemand avec un type nommé Hans, vous pouvez simplement l'appeler Hans. En revanche, je suis incapable de reproduire les sons de la langue de Rocky et vice-versa. Ainsi, lorsque l'un d'entre nous cite un nom propre, l'autre doit choisir un équivalent dans sa propre langue, ou bien en inventer un. Le véritable nom de Rocky est une séquence de notes. Il me l'a dit une fois, mais le nom en question n'ayant aucune signification particulière, j'ai décidé de continuer à l'appeler Rocky. A contrario, mon nom de famille est un mot anglais. Aussi Rocky me désigne-t-il par le mot éridien pour grâce. Bref, il me faut choisir un nom pour désigner le compagnon de Rocky. Adrian, dis-je subitement. Le nom humain sera Adrian. Compris, acquiesce-t-il, avant de filer dans son tunnel en direction du laboratoire. Je mets mes mains sur mes hanches et tords mon cou pour le suivre du regard. Où allez-vous comme ça ?
Manger.
Manger ? Attendez ! Je ne l'ai encore jamais vu manger. Je n'ai jamais vu un orifice autre que ses fentes de ventilation. Comment absorbe-t-il sa nourriture ? Et comment pond-il ses œufs ? Il s'est montré très évasif à ce sujet. Lorsque les navires étaient reliés, Rocky mangeait dans le sien, et je crois qu'il a avalé quelques repas dans le Dernière Chance pendant que je dormais. J'emprunte l'échelle pour descendre au labo. Lui est au milieu de son tunnel vertical, accroché à ses nombreuses poignées. Je continue à descendre. « Hé, je voudrais observer !» Rocky atteint le plancher du laboratoire.
« Privé. Dormir après manger. Vous regardez-moi dormir. Question ?»«
Je veux vous regarder manger.
Pourquoi ?» Question.
« Pour la science ?» Rocky agite plusieurs fois sa carapace de droite à gauche. Dans le langage corporel éridien, cela signifie qu'il est un peu agacé.
« Manger biologique, grossier. »«
Pour la science !»
« D'accord, » acquiesce-t-il en s'agitant de nouveau. « Vous regardez. »
Et il poursuit sa descente. « Super !» lâchai-je en le suivant. Je me glisse dans l'espace exigu du dortoir. Je dois me contenter de mon lit, des toilettes et des bras robotiques. Pour être tout à fait honnête, il n'a pas beaucoup de place non plus. Il bénéficie d'un plus gros volume, mais celui-ci est pour le moins encombré. D'autant qu'il y a installé un atelier de fortune et fabriqué un système de support vie en récupérant des pièces de son vaisseau. Il ouvre un de ses nombreux paquets souples et en sort un sachet scellé. Il le déchire à l'aide d'une pince et en sort des formes mystérieuses, à l'apparence minérale principalement, comme sa carapace. Il entreprend de les fragmenter consciencieusement. « C'est votre nourriture ?»«
Inconfort social, pas parler. »«
Désolé. » »« Manger serait donc une nécessité grossière pour les éridiens, quelque chose que l'on fait discrètement. » Je le vois détacher une pellicule rocheuse de la nourriture et révéler de la viande. C'est bien de la viande. En tout cas, cela ressemble à notre viande. Vu que nous descendons vraisemblablement des mêmes composants biologiques, je parie que nous partageons les mêmes protéines, et plus généralement, que nous utilisons les mêmes solutions aux défis de l'évolution. Une fois de plus, je suis frappé de mélancolie. J'aimerais passer le restant de ma vie à étudier la biologie éridienne, mais il me faut d'abord sauver l'humanité. Stupide humanité qui m'éloigne de mes hobbies. Rocky écarte les débris minéraux et met la viande de côté. Après quoi, il découpe cette viande en petits morceaux. Pendant tout ce processus, La nourriture reste sur le sachet d'où elle est sortie. Elle ne touche jamais le sol. Je ne voudrais pas non plus que ma nourriture touche le sol. Après quelque temps, il a découpé la viande en tout petits morceaux, aussi petits que le lui permettaient ses pinces. En tout cas, nous autres humains n'avons pas besoin de découper notre nourriture en morceaux si petits. Puis il se rend de l'autre côté du compartiment, laissant la nourriture par terre. Là, il sort un cylindre courteau d'un paquet et le place sous son thorax. Alors, les choses deviennent dégoûtantes. Il m'avait prévenu, je n'ai pas le droit de me plaindre. L'armure minérale de son abdomen se fend et je vois quelque chose d'humide s'ouvrir en ondulant. Quelques gouttes d'un liquide argenté et luisant tombent par terre. Du sang ? Soudain, une boule grise tombe de son corps dans le cylindre avec un bruit mat et humide. Il scelle le cylindre et le range dans sa boîte, puis il retourne à la nourriture et se couche sur le dos. Son abdomen est grand ouvert. À l'intérieur, je vois de la chair à vif. Avec plusieurs de ses pinces, il choisit quelques morceaux de viande qu'il lâche dans l'ouverture béante. Il répète le processus lentement et méthodiquement jusqu'à ce que toute la nourriture soit dans sa bouche, son estomac. Je n'entends pas mâcher, il n'y a pas de dents. Pour ce que j'en sais, il n'y a pas de partie mouvante à l'intérieur. Il termine son repas, puis laisse retomber ses bras. Il est là, immobile, les membres écartés. Je résiste à l'envie de lui demander s'il va bien. Il a l'air vraiment mort, mais il s'agit sans doute de la manière dont les Éridiens mangent, et des fèques. Ouais, je suppose que la boule grise tombée de son corps un peu plus tôt est ce qui reste de son repas précédent. Rocky est donc un monostome. Ses excréments prennent le même chemin que sa nourriture. L'ouverture de son abdomen se referme lentement. Un genre de croûte se forme pour la sceller. Je ne la vois pas longtemps, cependant, car son armure abdominale se referme.
« Moi, dormir !»
chantonne-t-il d'une voix traînante.
« Vous, observez, question ?»
Ce coma post-repas n'est apparemment pas une mince affaire. Il n'est pas du tout volontaire, semble-t-il. Cette sieste est rendue nécessaire par des impératifs biologiques. « Oui, je vais vous observer. Dormez. »«
Dormir, »
marmonne-t-il, avant de sombrer pour de bon, les cinq fers en l'air. Sa respiration s'accélère, comme chaque fois qu'il vient de s'endormir. Son corps doit se débarrasser de la chaleur accumulée dans son système circulatoire chaud. Au bout de quelques minutes, sa respiration ralentit. Maintenant, je sais qu'il dort profondément. Passé la phase de allaitement, il n'a jamais dormi moins de 2 heures d'affilée. Je peux donc m'éclipser pour vaquer à mes occupations. Dans ce cas précis, je vais prendre des notes sur son cycle digestif. Étape numéro 1, le sujet défèque par la bouche. Ouais, c'était franchement dégueulasse.